Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam, de l'islamisme, de l'Occident. Tout ça n'est pas nouveau. Le sujet est même éculé. Alors pourquoi y revenir? Tout simplement parce que nous voudrions parler au Canada, particulièrement de l'autre côté de l'Atlantique, et savoir s'il y a une spécificité européenne, une singularité française, où la présence des musulmans en Occident a les mêmes caractéristiques. Et pour aborder ce sujet, j'ai grand plaisir à recevoir le professeur Rachad Antonius. Rachad Antonius, bonjour.
Bonjour, monsieur Bencher.
Merci infiniment. Merci de rester éveillé eu égard au décalage horaire et de nous donner de votre temps. Vous sacrifiez une partie de votre sommeil, mais votre éclairage pour nous est très intéressant. Et donc, votre regard comme professeur en sociologie, professeur titulaire, et vous êtes professeur associé à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, est un regard juste, perçant, une vision holistique, globale de cette question de l'islam, de l'islamisme, de la présence des musulmans dans les contextes occidentaux. Comment étiez-vous amené à vous intéresser à ce sujet? Certes, vous êtes professeur aussi qui étudie les représentations stéréotypées des Arabes et des musulmans dans les médias, dans les conflits de tout genre, au Proche-Orient, etc. Mais cet intérêt pour vous, comment a-t-il été suscité?
Voilà, justement, par la dernière chose que vous avez mentionnée, les représentations. Je vais m'expliquer, mais je veux préciser d'abord que le livre que nous avons produit, je dis « nous », il a été avec M. Ali Belaïdi, qui est un collègue algérien qui a fait son doctorat à Montréal en sociologie sur les processus d'intégration des Algériens de la deuxième génération au Québec. Donc, il est arrivé à ça, et le livre est le résultat de notre collaboration. Alors, comment moi je suis arrivé à ça? Eh bien, j'ai travaillé longtemps sur les représentations négatives de l'islam, parce que dans les grands médias, elles avaient tendance à être négatives, et elles étaient en lien avec deux enjeux principaux. D'une part, la situation internationale et en particulier la question palestinienne, et donc souvent ces représentations négatives visaient à démoniser les Palestiniens d'abord, les Arabes ensuite et les musulmans plus généralement, pour pouvoir justifier des politiques qu'on peut appeler coloniales que le Canada appuyait. Donc ça, c'était une première logique. Mais par la suite, à partir de la moitié des années 90 et surtout à partir des années 2000, l'immigration algérienne a énormément augmenté au Québec à cause de la situation politique tendue et des conflits et des conflits armés en Algérie. Et donc, il est arrivé plusieurs dizaines de milliers d'Algériens comme immigrants, et une partie d'entre eux avait été influencée par la montée de l'islamisme, et une autre partie était au contraire venue pour fuir justement la montée de l'islamisme. Et donc, les pratiques associées à un certain islam conservateur ont nourri un certain nombre de représentations négatives de l'islam. Et donc, on s'est retrouvé dans les années 2000 à 2010 avec deux sources de ces représentations négatives, et une étant donc la situation internationale et l'autre étant les pratiques un peu rigoristes qu'on retrouvait ici. Alors, on n'employait pas à ce moment le mot islamophobie. Il a commencé à être utilisé en 1997 avec le fameux rapport du Runnymede Trust en Grande-Bretagne, et petit à petit on l'a utilisé beaucoup, et je me suis rendu compte donc en travaillant ces représentations que pour critiquer ces représentations, beaucoup de mes collègues et ainsi que des journalistes, des politiciens avaient pris l'habitude d'utiliser le mot islamophobie pour désigner toute attitude critique par rapport à l'islamisme ou à l'islam. Et là, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de confusion. On considérait comme de l'islamophobie des critiques qui étaient tout à fait légitimes de certains courants politiques à l'intérieur de l'islam. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on accusait justement d'islamophobie toute personne qui faisait ces critiques. Et de l'autre côté, on considérait comme étant islamiste toute pratique un tant soit peu conservatrice de l'islam. Et dans les deux cas, on utilisait le terme islamisme à tort et à travers, ainsi que le terme islamophobie. Et donc, Ali et moi, j'avais commencé le projet avant de commencer à discuter avec Ali, on s'est rendu compte qu'il fallait clarifier absolument quels étaient les processus internes au champ islamique dans les 30-40 dernières années, pour voir comment avait émergé ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui islamisme ou islam politique, et c'est pas la même chose, je vais éventuellement clarifier, et comment les courants associés à ce retour du religieux rendaient le vivre ensemble un peu plus difficile dans une société comme le Québec. Et c'est toute cette réflexion qu'on a voulu consigner, clarifier, partager avec d'autres, afin de contribuer à assainir le climat de la discussion et voir les tensions qui résultaient de l'immigration musulmane au Québec d'une autre façon.
Bien, votre développement introductif, Rachad Antonius, appelle une réaction trois points de ma part. La première, en principe, l'arabité est différente de l'islamité, mais même si elle se recoupe et que le conflit au Proche-Orient n'est pas teinté, dans son essence, par la religion, en principe, même s'il est drapé par la suite. Le deuxième point, c'est à propos de l'islamophobie. Effectivement, c'est un mot poison, un mot valise, un mot écran, un mot éventail, épouvantail même, mais sa genèse et sa proto-histoire remontent au tournant du siècle écoulé. Paul Marty, Maurice Delafosse, Alain Kélien, même Étienne Diné dans sa préface de 1918 pour la biographie du prophète en parle, donc ce n'est pas quelque chose de très récent.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans un instant, je finis par le troisième point, c'est que pour vous, l'islamisme n'est pas l'islam politique, et ça c'est très intéressant. Alors, quelle est la nuance entre les deux? Et puis, je vous poserai une question sur le fait que l'islamophobie est reconnue au Canada comme concept, comme notion, même comme mot, alors qu'en France, ce mot n'est pas reconnu, y compris à la Commission européenne.
Oui, tout à fait. Écoutez, vous avez soulevé trois points. Sur le premier point, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut distinguer conceptuellement tout ce qui relève de l'arabité, tout ce qui relève de l'islam. Mais dans le discours stigmatisant des Arabes, dans ce discours-là qui est porté par certains médias, on mélange les deux. On attribue, par exemple, certains positionnements politiques, par exemple, la résistance des Palestiniens, on l'attribue à l'islamisme, ou à l'islam des fois. Et donc, il y avait cette confusion et on voulait la clarifier. Et dans notre premier chapitre, nous expliquons très clairement la différence entre les deux, tout en constatant que l'islam ayant apparu dans l'Arabie et le texte sacré du Coran étant écrit en langue arabe, les interactions entre islam et arabité sont très profondes, mais elles sont distinctes. Il faut distinguer ces deux termes et nous le faisons et vous avez tout à fait raison de le pointer. Concernant le deuxième point, vous avez tout à fait raison aussi. Le concept d'islamophobie est né il y a très longtemps, mais son usage a été ravivé par ce fameux rapport du Runnymede Trust qui inscrit l'islamophobie comme une forme de racisme et qui, en faisant cela, introduit des confusions énormes qui font que ça devient un terme valise, un terme épouvantail, comme vous l'avez dit. Et dans la deuxième édition de ce Ranimid Trust sur l'islamophobie, qui a été publié en 2017, je crois, un des auteurs du premier rapport sur l'islamophobie, Kenan Malik, est revenu avec un texte très critique, soulevant tous les problèmes que vous venez de soulever. Alors moi-même, après avoir fait ce livre, pendant que je travaillais au livre, j'ai produit un autre texte qui s'appelle « Critique de l'islamophobie comme paradigme » et je concours tout à fait avec tout ce que vous avez dit, qu'il y a beaucoup de confusion autour du terme et c'est pour ça que je préfère utiliser trois termes différents que les gens incluent habituellement dans le terme islamophobie. D'une part, il y a une peur irrationnelle de l'islam. D'autre part, il y a une critique très rationnelle de l'islam. Et troisièmement, bon, il y a une sorte de racisme envers les musulmans qui est lié à cette peur irrationnelle. Et donc, tous ces termes-là sont inclus, ou tous ces concepts sont inclus dans le terme islamophobie, et ça mêle les cartes. Donc, on ne peut plus penser de façon analytique si on mélange des choses tout à fait différentes à l'aide de mêmes termes. Et c'est pour ça que je suis critique du terme islamophobie. Je préfère utiliser racisme anti-musulman quand il y en a, ou bien hostilité envers l'islam, et elle peut être rationnelle ou irrationnelle, elle peut être politique, et donc ça clarifie beaucoup les choses. Est-ce que je peux répondre à la troisième question maintenant?
Oui, je voudrais simplement dire un mot, une sorte de petite incise, oui, comme on dit,
allez-y,
sur l'affaire de l'islamophobie. On a voulu créer un néologisme ici, mais qui n'a pas eu beaucoup de fortune, c'était la mise-islamie, comme on aurait dit misogynie ou misanthropie, du misos grec, mm-hmm, qui est la haine ou la détestation. Mais bon, ça n'a pas pris, parce que racisme anti-musulman, une appartenance confessionnelle ne relève pas d'une race, c'est un choix d'une confession.
Oui.
Et donc le mot n'est pas tout à fait heureux ou approprié. Toujours
oui,
est-il.
Mais vous savez,
oui, je vous en
oui,
prie.
Excusez-moi. Oui, juste sur ce dernier point, ensuite je vous écoute sur le reste. Vous savez, il y a tout un courant dans les sciences sociales qui parle de néo-racisme ou de racisme différentialiste. Et ça a été surtout développé en France par des gens de l'école des hautes études en sciences sociales. Et ce qu'on veut dire par ce terme néo-racisme, c'est une hostilité envers un groupe qui n'est pas une race, mais cette hostilité prend les mêmes contours qu'un racisme, le même type de phénomène d'exclusion, de représentation négative, de préjugés et d'attitudes hostiles envers, ça peut être un groupe culturel, un groupe religieux, et donc on utilise le mot néo-racisme pour cela. Ceci dit, je comprends tout à fait votre point, et beaucoup de personnes le soulignent aussi, que cette nouvelle tendance en sciences sociales d'appeler ça néo-racisme n'est peut-être pas très heureuse, parce qu'il n'y a pas de race, et finalement, les gens disent, bon, il peut y avoir du racisme sans race, c'est-à-dire une hostilité viscérale, une peur des discriminations envers d'autres personnes, même si elles ne constituent pas une race, mais qu'elles constituent un groupe bien visible. Ceci dit, vous avez raison qu'il vaut mieux utiliser peut-être une hostilité envers l'islam, ou bien des préjugés envers les musulmans. En fait, il faut déconstruire ce terme islamophobie et utiliser les divers sens qui y sont inclus.
Oui, et
alors excusez-moi de vous avoir coupé, mais
je voulais clarifier
ce point.
Et vous avez bien fait, et nos auditeurs vous en sortent en gré. Et d'ailleurs, les mots ne sont pas encagés ou encastrés, comme disent certains, dans leur étymologie et leur sens premier. Leur acception et leur sens peuvent évoluer. Et si on parle d'un néo-racisme comme étant une détestation, une hostilité, indépendamment de la race, ça peut être aussi recevable et compris comme vous nous l'avez fait savoir. Encore un mot avant de venir à vos troisième point et pour que vous nous expliquiez, si vous voulez bien, la différence entre islamisme et islam politique. C'est que, pour solder l'affaire de la critique, la critique, quand elle est populaire, elle est salutaire, comme disent certains, et quand elle est académique, elle peut être vraiment bénéfique. éviter, ne pas vouloir esquiver le choc des idées, ne pas entendre les critiques pour une doctrine, quelle qu'elle soit, pour une philosophie, pour une théologie, pour un système de pensée, c'est l'asphyxie assurée. Et de ce fait, ce système de pensée ou cette doctrine ou cette philosophie ou cette théologie se vulnérabilise et il ne reste plus que le fanatisme ou la violence pour pouvoir subsister quelques instants. Donc, bienvenue à la critique. Il faut bien qu'elle y soit et je pense qu'aux intellectuels musulmans de l'accepter et d'en être demandeurs. Et de l'autre côté, nous entendons ici, quand je dis ici en France, vous êtes au Canada, au Québec, certains revendiquent leur islamophobie avec l'ambiguïté qu'il y a en disant « moi je suis islamophobe et je le revendique, je n'ai pas envie de donner des noms, mais ils sont nombreux ». Donc c'est un mot qu'il faut savoir déconstruire. Maintenant, cher oui. Sauf si vous voulez dire un mot là-dessus. Parce que,
Juste pour vous dire que j'ai écrit un texte justement de critique de ce concept qui a été publié dans une revue qui est publiée en Allemagne et qui s'appelle Enara, qui est une revue spécialisée d'islamologie. Alors, je vous le ferai parvenir. Je crois que ça peut aider à éclairer le débat et on pourrait en parler un jour si cela vous plairait. Voilà.
Merci infiniment. Sûrement que ça nous plaira. Enfin, le « nous », c'est pour nos auditeurs à travers le truchement de ma petite personne. Et « inara », c'est dans son acception arabe qui veut dire « éclairage ».
Exactement.
Ah, très bien. Alors, le troisième point qui s'est fait attendre, pourquoi pour vous l'islamisme est différent de l'islam politique alors que certains le définissent dans son acception récente, parce qu'au XIXe siècle, l'islamisme n'était rien d'autre que le pendant du judaïsme ou du christianisme à ce moment-là, quand il y avait ce isme comme un système de pensée, en l'occurrence une pensée religieuse. Mais avec l'islamisme radical de notre ami Bruno Étienne,
oui.
Son ouvrage paru en 1970 et puis les acceptions qui ont suivi, c'est la politisation exacerbée et l'idéologisation des préceptes religieux islamiques dans une forme de contre-projet social et politique. Cette définition ne vous plaît pas ?
Alors non, elle est bonne comme point de départ, mais entre le moment où elle a été formulée et maintenant, cet islamisme général s'est développé et s'est spécialisé et il y a eu des sous-tendances qui se sont cristallisées. Alors moi, je suis à l'aise avec cette définition globale de Bruno Étienne, mais je constate par exemple que quand il y a un projet politique associé à l'islam dans les pays arabo-musulmans, comme les projets des frères musulmans, par exemple, eux, ils veulent le pouvoir, et un pouvoir basé sur la norme religieuse, donc islamique, et sur le dogme comme étant le fondement du pouvoir, mais c'est le pouvoir qui est le plus important, et toutes les dynamiques qui se jouent autour de ça sont des dynamiques qui se rapporte au pouvoir, et finalement, vous pouvez trouver, parmi ces tendances de l'islam politique, des gens qui sont plus ou moins pratiquants, enfin, en général, ils le sont, mais qui ont une approche très libérale, ou bien plus rigide, mais qui veulent voir un ordre social et un ordre politique et un État où la référence principal ou quelquefois unique, c'est l'islam. Alors, je distingue ça d'islamisme parce que ce qu'on a constaté suite à l'émergence de cet islamisme-là et de l'appui de l'Arabie Saoudite aux tendances les plus rigoristes, c'est qu'il s'est développé un nouveau rapport au religieux qui n'est pas nécessairement politique, qui est dans le quotidien des gens qui sont devenus une partie de la population très préoccupés par la norme islamique et qui veulent l'inclure dans chaque aspect de leur vie, et là, avec ou sans projet politique. Ça veut dire que c'est une façon de vivre, c'est un rapport social, une culture religieuse qui a beaucoup changé, qui est en rupture avec la culture religieuse traditionnelle de l'islam. Et c'est cela que nous appelons islamisme, et nous développons beaucoup ce point, nous, c'est pas moi, moi et Ali, on développe beaucoup ce point dans le livre pour montrer qu'il y a en fait une culture religieuse qui s'est propagée à partir des années 80, 90, 2000, selon les pays arabes. Ça a commencé en Égypte en 80, ça s'est étendu un peu dans les pays du Maghreb un peu plus tard. Bon, ça a toujours été présent, mais c'est devenu dominant, sinon hégémonique, dans certains pays à partir de ces dates. Et ça consistait en une culture religieuse fondée sur une lecture très rigide du dogme. Et c'est ça que nous appelons islamisme, et c'est en lien avec l'islam politique. Ça nourrit l'islam politique, mais comme phénomène, ce n'est pas la même chose comme de façon analytique. Si on essaye de comprendre, d'analyser, de voir qu'est-ce que ça implique, on se rend compte que ce sont des logiques différentes. L'islamisme, il y a une logique sociale, de comportement personnel, de pratique, des rituels, de pratique de la mise en œuvre de la foi qui répond à une certaine logique, qui est en rupture avec l'islam traditionnel. Et il y a l'islamisme politique qui, lui, fait des calculs, fait des compromis, essaye de prendre le pouvoir, et donc il y a d'autres logiques qui sont en œuvre. C'est pour ça que nous pensons que ces deux aspects peuvent être distingués quand on analyse, mais qu'on peut aussi les mettre globalement sous le chapeau ou sous le concept d'islamisme.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons justement d'islamisme, d'islam tout court, en Occident. L'Occident est un concept vaste, ce n'est pas l'Europe occidentale, c'est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, particulièrement au Canada et d'une manière spécifique au Québec, avec le professeur Rachad Antonius, professeur titulaire en sociologie, professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Et pour cette deuxième partie de l'émission, cher Rachad Antonius, après votre explication de la nuance qu'il faut amener entre l'islamisme et l'islam politique, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que par islamisme, c'est cette tendance contemporaine d'avoir une approche presque quasi obsessionnelle de la norme religieuse, avec le salafisme, le wahhabisme, le fondamentalisme religieux islamique, tout particulièrement exporté par le royaume d'Arabie Saoudite, parce que, ça je l'ai lu dans votre ouvrage, pour eux c'était une affaire de survie politique, existentielle, surtout après la révolution khoméniste et l'année fatidique de 1979.
Effectivement, mais vous savez, cet appui a commencé avant 1979, il a commencé en 1973, parce que, si vous me permettez, je voudrais expliquer cette affaire de survie que vous avez évoquée. Alors, vous savez, l'Arabie saoudite, en fait, le territoire, c'est toujours appelé l'Arabie. Alors, pourquoi on l'appelle Saoudite? Parce qu'il y a un clan particulier, une tribu plus large, qui est celle des Saouds, qui a pris le contrôle politique et donc qui a renommé le pays Arabie Saoudite pour bien désigner le fait que ce sont eux, le clan des Saouds, qui le gouvernent. Et quand les prix du pétrole ont augmenté en 73 énormément, ils ont quintuplé en un an et ensuite doublé encore, donc décuplé au total, ce clan des Saouds s'est trouvé assis sur une fortune énorme, incalculable, et il a voulu assurer sa survie. Pourquoi sa survie? Parce qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale et des indépendances, on a vu dans beaucoup de pays arabes une montée de mouvements nationalistes d'orientation généralement laïque, et souvent amené au pouvoir par des juntes militaires, sauf en Tunisie, mais il y avait ce mouvement nationaliste qui se revendiquait un retour, enfin, ou plutôt une vision de la démocratie qui serait adaptée au monde arabe, mais qui serait essentiellement une démocratie. Et donc, s'il y avait une véritable démocratie, ben, le clan de Saoud n'aurait plus sa place. Si la richesse du pétrole dans les monarchies arabes était répartie également et gérée par un État, ben, il n'y aurait plus de clan qui aurait ce contrôle exclusif de cette richesse et l'usage qu'on voit de façon ostentatoire de cette richesse et le pouvoir qui vient avec. Et donc, il fallait absolument contrer cette tendance démocratique qui était loin d'avoir réussi sa démocratie, hein, entendons-nous. Mais au moins, il y avait une revendication de démocratie économique, par exemple, et politique. Pas du point de vue de la liberté de la parole, mais du point de vue de la répartition des richesses, par exemple, de l'éducation, de l'industrialisation, et ainsi de suite. Et donc, la façon de contrer cela a été d'encourager plutôt un islam politique qui portait des visions économiques qu'on peut associer à la droite. Donc, pour moi, l'islam politique, c'est l'équivalent de la droite néolibéral qu'on trouve aux États-Unis, par exemple. Et donc, il fallait absolument centrer toute l'attention et la vie des individus autour d'une pratique rigoriste de l'islam. Et là était l'enjeu. Voici pour la mise en contexte.
Bien. Alors, Rached Antonius, pour revenir aux caractéristiques de la présence des musulmans en Occident, au Canada particulièrement, et puis la société québécoise que vous étudiez bien, ces caractéristiques d'un islam fondamentaliste ou salafiste ou wahhabite, en tout cas islamiste selon la définition que vous lui donnez, c'est en gros, sans généralisation aucune, il n'y a pas pire démission de l'esprit que de généraliser, et toute généralisation est abusive. C'est que c'est une sorte de religion sans culture anthropologique. Vous insistez sur l'idée de l'ignorance sacrée et ses conséquences, sur la dogmatisation de l'histoire dont il faut en sortir. C'est la dédogmatisation de l'histoire qui doit être importante pour vous, pour une sortie de la crise qui a assez duré.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que l'islam tel que vécu dans les sociétés arabes et dans les sociétés du monde a été extrêmement diversifié du point de vue culturel. Les cultures locales ont été intimement mêlées à la culture religieuse proprement dite et ont donné des pratiques assez diversifié, avec un socle commun qui est fondé sur les dogmes essentiels qu'on retrouve dans le Coran. Alors, un des aspects caractéristiques de cet islamisme, donc l'islamisme social et entre autres l'islam politique, c'est de vouloir désarticuler ces cultures qui ont été au fond de la culture civile dans ces sociétés, de les dissocier de la pratique religieuse. Et vous savez, dans ce mouvement salafiste que l'on retrouve, une des premières cibles, c'est toutes les pratiques soufies, par exemple, qui, elles, sont ancrées dans des cultures locales. C'est aussi toutes les cultures locales qui sont combattues et qu'on veut remplacer par une culture un peu idéalisé, un peu fantasmé, qui serait uniforme à travers tous les pays arabes. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une rupture entre ce que les musulmans ont toujours vécu dans la façon dont les musulmans ont vécu leur islam, en général très souple, très accommodant, très tolérant, et cette nouvelle culture religieuse, rigoriste, rigide, portée par les courants salafiste. C'est de ça qu'on parle quand on parle de cette rupture anthropologique.
D'une part, et d'autre part, vous mettez en lumière l'idée que l'espace dit partagé ou l'espace public les stratégies des fondamentalistes musulmans ou les islamistes, encore une fois selon la définition qui est la vôtre, c'est de considérer la mosquée ou l'espace d'un lieu de culte comme une micro-umma, une micro-communauté dont il faut élargir les contours, et donc l'extension de la umma une fois sortie de la mosquée doit grignoter petit à petit l'espace dit partagé en sociologie, et les conflits naissent de cette volonté de vouloir, d'une manière hégémonique, de vouloir imposer un peu son point de vue, son modèle, par des accoutrements sur l'aspect vestimentaire ou une pratique ritualiste au niveau alimentaire.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est effectivement un des points sur lesquels on a essayé de réfléchir un peu. Vous savez, dans les sociétés musulmanes, en tout cas celles que moi j'ai connues en grandissant en Égypte et que, sur lesquelles j'ai lu par la suite quand j'ai fait la sociologie des sociétés arabes, c'est que ce sont des sociétés extrêmement diversifiées avec des pratiques très différentes. Par exemple, c'est pas tout le monde qui faisait le ramadan de façon rigoriste. C'est pas tout le monde qui faisait ses prières 5 fois par jour. Les gens souvent regroupaient les prières quand ils allaient travailler, surtout dans les pays arabes, ils les faisaient le matin ou le soir. Tout ça, c'était jusqu'avant la montée de cette mouvance islamiste. Et alors, cette hégémonie dont vous parlez, c'est que ces groupes rigoristes voudraient étendre leur vision du monde et leur pratique sociale en dehors de la mosquée, et donc grignoter l'espace public, comme vous l'avez si bien dit, pour le rendre absolument homogène du point de vue de la pratique religieuse. Et ça, nous pensons qu'il y a une perte de richesse anthropologique, une perte de richesse culturelle en cela, parce que l'islam que moi j'ai connu dans mon enfance, dans la société égyptienne dans laquelle j'ai grandi, il y avait une spiritualité intérieure aux gens, qu'ils vivaient de façon très variée, très diversifiée, mais il n'y avait personne qui leur disait « tu t'habilles de cette façon pour des raisons religieuses » ou « tu te comportes de cette façon pour des raisons religieuses ». Ça a commencé avec le salafisme, et donc c'est comme si ils voudraient rendre homogène tout l'espace autour des lieux de culte, et ça s'étend non seulement dans l'espace public et dans la rue, mais dans les maisons. Et donc, par exemple, en Algérie, dans la période de la montée de ce type d'islamisme, dans les années 80, on distribuait aux jeunes garçons dans les écoles secondaires des hijabs pour leur dire « dites à vos mères et à vos sœurs que c'est comme ça qu'il faut s'habiller ». Alors, bon, je ne veux pas généraliser non plus. Je dis que c'est une chose qui s'est passée, qui était assez répandue, mais ce n'était pas partout, évidemment.
Oui.
Mais elle indique quelque chose. Elle indique ce désir d'homogénéiser les pratiques de l'islam pour les rendre conformes aux visions des islamistes.
À l'évocation de l'Algérie, et je pense que votre co-auteur, Ali Belaïd, peut en témoigner, c'est un exemple qui illustre mon propos, c'est que quand il y avait l'appel à la prière pour prière communautaire ou de congrégation ou celle du vendredi, les brasseries étaient ouvertes, et celui qui a envie d'aller prier y allait, et celui qui voulait rester dans sa brasserie boire ce qu'il souhaite pouvait le faire librement. Aujourd'hui, j'imagine, que ce soit en Algérie ou ailleurs, lors de la prière du vendredi, tout est fermé pour que les gens puissent aller presque malgré eux ou obligés, ne serait-ce qu'une obligation intériorisée pour répondre à l'appel du muezzin pour la prière communautaire.
Tout à fait, avec des variations. Par exemple, en Égypte, la culture religieuse traditionnelle, telle que portée par les imams traditionnels et les juristes du Azhar, par exemple, comme elle était très forte, la résistance à ce type de pratique que vous avez évoquée était elle aussi un peu plus forte. Alors, en fait, pendant 2 décennies ou 2,5 décennies, vous avez tout à fait raison, cette pratique a été imposée dans la rue. Mais dans les grandes villes, maintenant, on revient à une certaine pratique très tolérante. Alors, bien sûr, la plupart des commerces vont fermer à l'heure de la prière, mais dans les grandes villes, ce n'est plus imposé comme ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Enfin, à mon dernier voyage en Égypte, moi, j'ai retrouvé un peu de l'atmosphère dans la rue que j'avais connue il y a 50 ans, quoi.
Oui, ce qui fait dire à certains que l'islamisme, dans son sens général, et l'islam politique comme idéologie, sont des approches inconsistantes et elles doivent imploser de l'intérieur comme certaines idéologies séculières.
Oui, mais elles vont pas disparaître complètement. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est une polarisation. C'est-à-dire, il y a un groupe, enfin, une certaine tendance dans la société qui maintiennent ce rigorisme, mais qui sont en perte d'influence relative. Donc, les groupes sont plus petits, plus restreints, mais ils continuent à croire à tout ce que l'islamisme porte. Mais il y a aujourd'hui des alternatives qui s'expriment. On voit dans les rues de plusieurs capitales ressurgir une sorte de pratique plus libérale, plus accommodante, moins rigoriste. Et j'attribue cela à deux facteurs. D'une part, ce qu'on appelait les révoltes arabes. Je n'utilise pas le mot printemps arabe pour diverses raisons, mais ce qu'on appelait les révoltes arabes de 2011 ont ouvert des horizons et ont brisé des tabous qui ont amené les sociétés à se ressaisir, ça c'est d'une part. Et d'autre part, avec la montée de l'État islamique en Syrie et au Levant, ce qu'on appelle Daesh, il y a eu une sorte de prise de conscience dans les sociétés arabo-musulmanes de ce à quoi peut mener cet islamisme extrêmement rigide. Et il y a eu une prise de conscience et un recul et éventuellement un rejet de ces tendances les plus dures, et donc un recentrage qui commence, moi je pense qu'on est au début d'un processus de retour à un islam beaucoup plus apaisé, qui a été dominant pendant des années, avant la montée de ce wahhabisme et du salafisme.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons d'une manière générale, encore une fois, de l'islamisme, de l'islam, des contextes occidentaux mais aussi des contextes arabo-musulmans avec le professeur Rachid Antonius, professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, fin connaisseur des questions sociologiques du monde arabe et du monde musulman. Pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Rachid Antonius, comment expliquez-vous la standardisation de ces effets, notamment vestimentaires? Nous avons appris d'une manière livresque, certes, que pendant des siècles, la femme musulmane en Inde portait le sari. Pendant des siècles, la femme musulmane en Afrique subsaharienne portait le boubou. Et voilà que depuis maintenant deux ou trois décennies, on voit une sorte de voile idéologique de Jakarta à Casablanca, voire à Montréal ou à Québec City, imposé. Alors, c'est toujours le wahhabisme et les pétrodollars ou ce sont d'autres facteurs qui l'ont favorisé, si on reste sur cet exemple, il y en a d'autres.
Oui, écoutez, le wahhabisme a joué un rôle dans l'implantation du phénomène. Mais ensuite, le phénomène s'est généralisé en fonction d'autres dynamiques. Dans le cas de l'Égypte, par exemple, il y a eu dans les années 70 des politiques néolibérales qui ont appauvri énormément de gens, mais qui ont permis à une nouvelle petite bourgeoisie d'origine rurale d'émerger. Et à la fin des années 70, alors que le mouvement wahhabite essayait de propager sa version de l'islam et de donc l'islamisme tel qu'on le connaît et le port du voile, à un moment donné, il y a eu des émeutes de pain et on s'est mis à se dire, mais ces nouveaux riches, d'où est-ce qu'ils ont leur argent? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est éthique? Et il y a eu, au début des années 80, un mouvement assez généralisé de cette nouvelle petite bourgeoisie d'exhiber tous les symboles extérieurs de l'islam. Donc c'est dans ce milieu que les femmes ont commencé à porter le voile, que les hommes ont commencé à montrer de façon ostentatoire qu'ils suivaient la pratique, qu'ils développaient sur le front cette marque qu'on appelle la zébib, qui montre qu'ils faisaient leur prière régulièrement sur des tapis de paille, donc qui laissaient cette trace sur le front.
Pardon, Rached Antouni, sur ce point précis, oui. Je me permets de vous interrompre. Oui. J'en ai vu, et on nous avait raconté qu'il y avait ceux qui prenaient une pierre ou un bout de caillou, ils grattent sur leur propre front pour que cela apparaisse comme étant des priants assidus.
Oui, effectivement, c'est une pratique qui a été mentionnée par beaucoup de gens. Je ne sais pas si elle était très généralisée ou pas. Ça existait, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais il me semble que c'était un peu marginal. C'est-à-dire que la plupart des gens frottaient leur front sur des paillassons qui laissaient cette trace. Et il y avait d'autres marques de cette islamisation ostentatoire. Donc les petits commerçants faisaient jouer le Coran sur des haut-parleurs en général d'assez mauvaise qualité à longueur de journée dans leur commerce. Ils mettaient des versets coraniques calligraphiés magnifiquement dans des cadres qu'ils exposaient dans leur commerce, dont une phrase qui revenait souvent, « Hadha min fadli Rabbi », ça veut dire « Tout ce que j'ai, cette richesse-là, c'est Dieu qui me l'a donnée ». Et donc, c'était une façon de légitimer cette nouvelle richesse en disant « Ne me questionnez pas trop sur comment je suis devenu riche, c'est Dieu qui m'a donné ça ». Donc, ça faisait partie de ça. Et vous savez, quand j'avais visité l'Égypte dans cette année, ça me faisait beaucoup penser au Tartuffe de Molière. C'est-à-dire qu'il y a des conditions assez similaires d'une société qui s'urbanise, qui s'ouvre, une montée d'une petite bourgeoisie rurale qui devient plus riche et qui veut montrer qu'elle est vertueuse. Et il y a un dernier élément, c'est que nous vivons dans les sociétés arabes, les gouvernements, les systèmes politiques sont tellement corrompus que les gens avaient besoin de manifester un souci pour l'éthique. Et l'éthique s'est manifestée par le retour du religieux. Donc, en portant le voile, par exemple, puisque vous avez mentionné cet exemple dont je parle dans le livre, c'était une façon de dire « moi, je suis une bonne musulmane ». Et ce dernier point a fait qu'aujourd'hui, le sens du voile a beaucoup changé. Il y a une portion importante de femmes qui portent le voile, qui le portent avec cette idéologie wahhabite, salafiste du voile, d'un retour rigide et strict à la norme religieuse. Mais il y a beaucoup de femmes musulmanes, surtout dans les pays occidentaux, autant en France qu'au Canada, pour qui c'est juste devenu un signe de respectabilité et un signe d'identité. Donc on porte le voile, on dit « voilà, je suis une bonne musulmane et je suis une musulmane d'abord ». Et je suis une bonne musulmane. Mais à côté de ça, on a brisé tous les stéréotypes associés aux femmes dans le passé. Donc, une femme peut porter le voile, mais être une scientifique de haut niveau, elle peut être une sportive de haut niveau, elle peut être très libre dans ses décisions, dans sa vie personnelle, et elle va porter le voile comme signe identitaire et signe de respectabilité sociale qui va faciliter ses interactions avec son milieu. Et c'est ça qui rend la question difficile. C'est que le voile n'a plus un sens unique. Il est porté à la fois comme un choix qui peut être associé à toutes sortes d'attitudes extrêmement libres et autonomes et émancipatrices, et il peut être aussi une forme de wahhabisme qui contraint les femmes. Et ce mélange des deux significations, dans des groupes différents évidemment, mais des fois dans la même famille, vous pouvez trouver une femme qui ne porte pas le voile, une qui le porte de façon émancipée et une qui le porte de façon très traditionnelle. Et donc ça rend la critique de ce phénomène et la législation autour du port du voile, très difficile. Évidemment, au Canada, c'est différent de l'Europe et de la France en particulier. Vous aviez évoqué cette différence et si vous voulez, si on a le temps, on peut y revenir.
Alors, on a très peu de temps, hélas, mais je voudrais vous dire en cette fin d'émission, comment alors une citoyenneté commune, apaisée, engageante, en s'acquittant des devoirs du citoyen pour jouir des droits afférents, puisse être réalisable ou réalisée, cette citoyenneté commune, comment peut-elle s'épanouir dans un contexte de guerre symbolique ou de violence symbolique. Pour beaucoup, notamment en France et en Europe, peut-être pas au Canada, mais ça vous allez nous l'expliquer, le voile, qu'il soit porté d'une manière rétrograde ou obscurantiste pour certaines, ou revendiqué comme un effet émancipateur au-delà de l'oxymore pour certains, comment faire pour que les choses s'apaisent? Faudra-t-il du temps, faudra-t-il de la patience ou plus d'explications?
Vous avez raison de souligner la difficulté de trouver une citoyenneté apaisée qui tienne compte de ces phénomènes qui sont contradictoires, opposés, antagonistes. Je crois que ça va passer par le dialogue d'abord et ça va passer par un changement de perspective à la fois dans les sociétés d'accueil et dans les groupes originaire de l'immigration, parce que en France, même si beaucoup de citoyens français de confession musulmane sont nés en France, l'histoire de leur famille, l'histoire de leur communauté est une histoire d'immigration. Et donc, il y a un dialogue, une compréhension des luttes pour l'égalité, et ces luttes doivent se faire des deux côtés à la fois. C'est un peu pour ça que nous avons écrit le livre, pour initier ce type de dialogue. C'est d'ailleurs le sous-titre de notre livre, c'est « Éléments pour un dialogue », parce que ce sont à travers ces explications, ces clarifications, ces remises en question, qu'on peut développer quelque chose de commun, où on peut dire, par exemple, ici à Montréal, il y a beaucoup de femmes iraniennes et algériennes qui ont vécu les horreurs de régimes ou de courants sociaux et politiques qui voulaient leur imposer des façons d'être. Alors ces femmes, en général, appuie toutes les lois qui veulent limiter le port du voile dans les écoles, dans certains lieux et ainsi de suite. Mais il y a une énorme différence entre le Canada et la France en général. En France, le clivage s'est fait en partie autour du clivage gauche-droite. Au Canada, c'est très différent. L'État canadien est porteur de cette idéologie du multiculturalisme qui le fait encourager toutes les formes de retour à l'islam. Et donc, on courtise les groupes musulmans, on va faire des campagnes électorales dans les mosquées, on valorise le retour à ces pratiques religieuses, et d'une certaine façon, quand on regarde le Canada anglais, ces aspects extérieurs de la religiosité ne posent pas de problème dans le Canada anglais, sauf quelques rares exceptions.
Nous aurions pu parler, cher Rachel D'Antonius, du rapport... Non, je vous en prie. Ce sont un peu les difficultés du fait que nous ne sommes pas ensemble dans un même studio. C'est le fameux rapport de Marion Boyd en Ontario. Peut-être encore en quelques mots, c'est pas pour vous interrompre, mais pour dire cette spécificité aussi de l'aspect multiculturaliste affiché par l'État fédéral, alors que nous nous approchons hélas de la fin de l'émission. Mais si vous pouviez nous le dire, ça serait bien aussi.
Oui, effectivement. Vous savez, chaque fois que j'ai parlé du livre dans ma tournée en France, on m'a posé cette question-là. Effectivement, les gens ont accordé beaucoup d'importance à ce rapport, mais en fait, l'histoire était limitée et la page a été tournée. Ce qui est arrivé, c'est qu'un avocat d'origine indo-pakistanaise voulait établir des tribunaux d'arbitrage volontaire de certains conflits sociaux, autour du divorce par exemple, en se fondant sur la charia. Et ça a causé un tollé, et un des groupes qui s'est élevé contre cette possibilité était une association de femmes musulmanes qui disait « Attendez, vous allez enfermer les femmes musulmanes qui viennent d'immigrer et dont plusieurs, surtout celles qui viennent du Pakistan, du Bangladesh, d'Inde, ne connaissent pas les langues, sont arrivées dans des conditions qui font qu'elles elles ne sont pas très autonomes dans leur rapport avec la société. Et là, on va les enfermer avec ces tribunaux d'arbitrage et il ne faut pas les accepter. Et effectivement, il y a eu un débat houleux pendant à peu près un an et demi, mais le gouvernement dans la province de l'Ontario au Canada a fait marche arrière et a interdit ce type d'arbitrage, pas seulement pour les musulmans, mais pour aussi les chrétiens et les juifs, parce qu'il existait, mais il était très, très, très peu utilisé par les autres. Mais donc, on a réglé la question. Mais ce que je peux ajouter à ça, c'est qu'au Canada, on valorise ce multiculturalisme et une des conséquences de cette valorisation, c'est qu'on valorise aussi ce fondamentalisme religieux parce qu'on ne fait pas la distinction entre ce qui relève de l'islamisme et ce qui relève de l'islam. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avions écrit ce livre, pour justement dire, attendez, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à des pratiques culturelles ou cultuelles, donc religieuses, différentes, ne doit pas se faire de façon absolue et sans limite. Il faut comprendre ce qui relève de l'islamisme et qui interfère avec le vivre ensemble, comme vous l'avez souligné, de ce qui relève des pratiques religieuses traditionnelles qui sont en général accommodantes. Il y a une tradition d'accommodement dans l'islam qui se reflète en ce principe d'interprétation juridique al-taysir wa laysat ta'sir.
Rendre les choses aisées.
Il faut faciliter les choses plutôt que les compliquer. Voilà, c'est la traduction. Et donc, c'est à ça qu'il faut retourner. Et c'est, en fait, les accommodements raisonnables, c'est dans l'islam qu'il faut les chercher. Et ça peut être ça la voie de sortie, plutôt que de demander aux sociétés d'accueil de tout accommoder.
Merci, cher Rachid Antonius, pour cet éclairage, pour vos explications et surtout pour cette conclusion. À supposer par extraordinaire qu'il faille chercher des accommodements raisonnables, ce serait plutôt du côté de la vision islamique des choses et non pas du côté des États ou des gouvernements, voire des sociétés dans lesquelles les musulmans évoluent et vivent comme citoyens ou comme résidents. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son était assurée aujourd'hui par Bruno Mourlan et la réalisation est assumée par l'ami Émilie Valla. Thank you.